Eh bien, bonjour à vous tous, que je n'ai pas eu l'occasion encore de saluer. Merci d'être là et puis merci au Père Philippe et à chacun d'entre vous en ce jour. Alors, peut-être en guise d'introduction à ce que va nous dire et toutes ces belles choses que nous dira le Père Philippe tout au long de ce jour avec notre thème de journée, le corps dans les sacrements, le corps à corps même dans les sacrements, et la rencontre du corps de Jésus aussi au cœur des sacrements. Eh bien, je vous propose à présent, pour commencer, une petite méditation. Une petite méditation. Nous allons ouvrir l'Évangile et pour mieux découvrir et nous laisser rencontrer par Jésus. Jésus à la rencontre du corps malade. Ou autre titre ou sous-titre, ce que les miracles de guérison opérés par Jésus nous offrent comme enseignement. Alors comme ce qui concerne les nombreuses rencontres de Jésus de Nazareth relatées par les évangiles, eh bien, il me faut commencer par une remarque. Cette remarque, elle peut nous paraître élémentaire, elle n'en est pas moins essentielle, s'agissant du mystère du Christ, s'agissant du mystère de Dieu manifesté en son Fils Jésus. Cette première remarque consiste à reconnaître que la personne même de Jésus, loin d'être différente des autres acteurs de ces rencontres, la personne même de Jésus entre en relation avec les personnes par l'intermédiaire d'un corps semblable au leur, semblable au nôtre, en tout point. Et lorsque saint Jean affirme au début de sa première lettre « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. » Première de Jean, versets 1 et 2, le tout début de la première épître de Jean. Eh bien, lorsque saint Jean affirme cela, vous voyez qu'il emploie les mots tout à fait ordinaires qui disent de quelle manière, c'est-à-dire par quel sens, les sens communs à tous les hommes, les disciples vont communiquer avec celui qu'ils avaient suivi depuis la Galilée et comment lui-même, Jésus, a communiqué avec eux. Donc la formule, les formules employées ici par saint Jean, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons touchés de nos mains, disent de quelle manière, disent et nous parlent donc d'un personnage, certes exceptionnel, puisqu'il est le Verbe de vie, ce que nous avons touché du Verbe de vie, mais qui a cependant tous les caractères d'un humain. On peut le toucher, mais il touche aussi d'autres hommes, qu'il entend, qu'il voit, de même qu'il est écouté et regardé. Ainsi, il nous faut d'abord constater que les récits des évangiles nous montrent d'abord des hommes. Alors il y a Jésus lui-même, et en face de lui, eh bien, dans les récits rapportés par les évangiles, un ou plusieurs personnages, souvent atteints de maladies, d'infirmités, et se reconnaissant mutuellement, Jésus et ses personnages, se reconnaissant mutuellement comme pleinement hommes, établissant le contact entre eux par le jeu des sens, par l'échange de paroles et de regards, qui leur permettent ainsi d'entrer en relation. Je crois qu'il faut garder tout cela, même si ça nous paraît un peu élémentaire, mais le garder tout cela à l'esprit lorsque nous sommes en présence dans les évangiles de cette grande diversité, parce qu'ils sont très divers, grande diversité d'épisodes dénommés récits de guérison. Ceci nous présente des hommes et des femmes atteints de divers maux qui peuvent compromettre leur santé corporelle, voire même psychique, et parfois faire peser sur eux, ces hommes et ces femmes douloureux, ces hommes et ces femmes en souffrance, hein, qui vont se laisser rencontrer par le Christ, donc des hommes et des femmes atteints de maux qui compromettent leur santé corporelle et psychique et qui peuvent aussi faire peser sur eux la menace d'une mort prochaine. Ceci étant dit, je vous propose de lire bien rapidement, bien sûr, les récits, deux récits évangéliques qui vont nous permettre de mieux percevoir la place que tiennent les corps d'hommes dans de telles rencontres avec le Christ. Alors j'ai choisi intentionnellement des récits tirés de l'Évangile selon saint Marc. D'abord parce que nous sommes en cette année B, à l'écoute tout particulièrement de l'Évangile de Marc tout au long des dimanches et même tout au long de l'année. Et puis, ce qui motive mon choix, c'est que dans l'Évangile de Marc, les récits de guérison occupent quantitativement, mais aussi qualitativement, plus de place que les paroles ou que les enseignements de Jésus. Ça, c'est un peu propre à Marc. C'est dire, en quelque sorte, hein, qu'en saint Marc, Jésus enseigne à travers ses miracles. Le premier récit offert à notre contemplation de ce matin se trouve en Marc 1, les versets 38 à 42. Alors, je commence au verset 40. Un lépreux s'approche de lui. Il le supplie et tombe à genoux en lui disant: Si tu le veux, tu peux me purifier. Pris de pitié, Jésus étendit la main et le toucha. Il lui dit: Je le veux, sois purifié. À l'instant, la lèpre le quitta et il fut purifié. Alors nous sommes ici au début de l'évangile, hein, de Marc, mais il y a déjà eu quelques guérisons opérées la veille, notamment celle de la belle-mère de Pierre. Donc nous sommes au début de la vie publique de Jésus, qui vient de prendre les chemins de la Galilée pour, et je cite les versets 38-39, pour proclamer, il leur dit: Allons ailleurs dans les bourgs voisins, pour que j'y proclame aussi l'évangile. Il alla par toute la Galilée. Il prêchait dans leur synagogue et chassait les démons. Donc il prend les chemins de la Galilée pour proclamer l'évangile et chasser les démons. On a ici, à partir du verset 40, un récit d'une extrême sobriété où saint Marc va nous décrire cette première rencontre faite sur ce chemin-là. Il semble bien qu'il s'agisse d'une rencontre fortuite pour les deux personnages qui marchent l'un vers l'autre à ce moment-là. Un lépreux s'approche de lui. Il le supplie et tombe à genoux. Donc un lépreux qui arrive sur le chemin, un homme dont la maladie ronge le corps. Et avec ce corps qui se défait, eh bien voici que cet homme fait le geste qui convient à la prière. Il le supplie et tombe à genoux. Le geste qui convient à la prière. Il s'arrête. Il tombe à genoux. Et vient alors, sur les lèvres de ce lépreux, le mot de la foi. Si tu le veux, tu peux me purifier. Verset 40. Le geste de la prière, il s'agenouille. Les mots de la prière, si tu veux, tu peux, qui sont aussi les mots de la foi. Vous voyez combien cette démarche combine simplicité dans l'attitude, mais aussi netteté du propos, qui signifie que le lépreux a bien la conviction de la puissance qui habite son vis-à-vis, c'est-à-dire Jésus. Si tu le veux, tu peux. Je suis convaincu de ta puissance. Jésus a regardé l'homme, écoutant en silence, et sa première réaction mérite qu'on s'y arrête. Première réaction de Jésus, prie de pitié. Prie de pitié. Le texte dit en réalité, c'est un terme qui est souvent employé dans les évangiles et qui est rendu par prie de pitié, mais le texte dit qu'il est pris aux entrailles. Il est pris aux entrailles. C'est-à-dire qu'il est touché au tréfonds de son corps. Ce qui nous est dit dans cette expression, il est pris aux entrailles, eh bien, concerne le corps de Jésus, de manière concrète. C'est cela que signifie ce terme. Il est bouleversé, il est pris aux entrailles, touché au tréfonds de son corps, et c'est de cette profondeur-là, les entrailles, de cette profondeur que partent les gestes de compassion qui vont préparer sa réponse. Saisi aux entrailles, Jésus étendit la main. Premier geste de compassion, et le toucha. Des gestes de compassion qui préparent sa réponse. Encore étendant la main, il le toucha. Il faut entre deux corps un vrai contact. Charnel et non pas distant, une main touchée, une épaule effleurée. Il faut entre deux corps un vrai contact pour que les êtres communiquent réellement. Ces deux gestes, étendre la main, toucher le lépreux, disent aussi que la miséricorde ne se laisse pas arrêter à l'aspect extérieur de la maladie. La miséricorde ne se laisse pas arrêter, pas plus par les interdits de la loi, car vous savez que, s'agissant d'un lépreux, la loi était très rigoureuse. Elle excluait le lépreux de la société des bien portants. Eh bien, les deux gestes que fait Jésus disent bien que la miséricorde ne se laisse pas arrêter par cela, ni par l'aspect très rebutant, du lépreux, ni par les interdits de la loi. C'est seulement après ces signes qui sont comme des signes annonciateurs de temps nouveau. Le temps nouveau pour le lépreux, ce sera sa guérison, sa purification. Et ces deux gestes, étendre la main, toucher, sont comme des signes annonciateurs des temps nouveaux. Et après, et seulement après ces deux gestes, Jésus parle. En une phrase unique, et vous remarquez bien que c'est la reprise exacte de celle qui a été dictée par la foi du lépreux. Le lépreux a dit « Si tu le veux, tu peux. » Jésus, après avoir posé ces deux gestes annonciateurs de temps nouveau, dit au lépreux « Je le veux. Sois purifié. » Devenu dans la bouche de Jésus puissance de Dieu, la parole prononcée se concrétise aussitôt dans le corps redevenu sain que la lèpre vient de quitter. Verset 42, à l'instant, la lèpre le quitta et il fut purifié. Et puis, les versets suivants, même si j'ai arrêté ma lecture là, au verset 42, les versets suivants sont intéressants parce que on voit que c'est le fait de pratiquement toutes les guérisons de Jésus sont suivies par une recommandation. Alors souvent, une recommandation, là, c'est « va te présenter au prêtre » ou « ne dis rien ». Il y a toujours comme une exhortation après la parole et le geste qui guérissent. Comme au cœur du sacrement de réconciliation s'offre aussi l'exhortation du prêtre qui, au nom du Christ, va offrir le pardon, va dire le pardon de Dieu aux pénitents. Une exhortation, une recommandation. Les guérisons, les récits de guérison de Jésus, se déroulent ainsi. Il y a un geste, une parole, ensuite une recommandation. Va et désormais ne pêche plus. Un envoi, un bien dire. Voilà donc pour notre premier récit évangélique en Saint Marc 1, alors 38-42, ou si vous voulez 43-44 aussi. Hein. Le second récit, je le tire dans l'évangile de Marc au chapitre 7, les versets 31 à 37. Marc 7, 31-37. Et c'est le passage que nous avons déjà entendu durant la prière. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le territoire de la Décapole. On lui amène un sourd qui de plus parlait difficilement et on le supplie de lui imposer la main. Le prenant loin de la foule, à l'écart, Jésus lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue. Puis, levant son regard vers le ciel, il soupira et il lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Verset 36, Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. On lui amène un sourd, qui de plus parlait difficilement, et on le supplie de lui imposer la main. On amène à Jésus un sourd. Qui est ce « on » ? Des gens d'un pays païen. Mais on n'en saura pas plus. Des gens d'un pays païen. Et il lui demande de poser sur lui la main. On observe que entre eux, entre ce « on » et Jésus, il n'y a pas d'échange. Il entend et il s'en va. On le supplie de lui imposer la main. Verset 33, le prenant loin de la foule à l'écart, il s'en va. Donc il prend l'infirme à l'écart, seul. Et ce premier geste a une portée essentielle du point de vue théologique et humain. Jésus prend l'infirme à l'écart, comme lorsque lui-même, Jésus, part à l'écart pour prier le Père. Combien cette mention de « seul à l'écart », Jésus prie son Père. Donc là, voilà le point essentiel, Jésus prend l'infirme à l'écart. Et c'est selon moi un des points essentiels de l'Évangile. Dans sa totalité, ce point essentiel, c'est que Dieu se préoccupe de chacun individuellement. Nous prenons à l'écart. Il nous distingue de la masse. Il agit pour nous. Il nous parle. Il nous écoute. Jésus mène l'homme à l'écart de la foule. Et c'est le premier geste, plein de sens, que Jésus donne. C'est Jésus qui le lui donne, ce geste, de le prendre à l'écart. Jésus donne à cet homme ce geste-là pour le faire avancer dans la guérison. Dieu se préoccupe de chacun individuel. Verset 33b, Jésus lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue. Ces gestes, alors qu'on a un petit peu de mal à imaginer cracher, toucher la langue avec la salive, hein. Donc ces gestes qui nous semble étrange, il faut savoir qu'ils étaient assez courants hein, dans la médecine populaire au temps de Jésus, non seulement en Israël, mais dans tout le monde gréco-romain. Vous aurez remarqué que, contrairement à la demande qui lui avait été faite au début du récit, on lui amène un sourd, on le supplie de lui imposer les mains, eh bien Jésus ne fait pas ce geste. Il n'impose pas la main, mais il met ses doigts dans ses oreilles et touche sa langue de sa salive, Il rétablit un contact. Il rétablit une relation. Et de plus, il sort, en quelque sorte, il sort une parole, tel un souffle de soupir. Verset 34, puis levant son regard vers le ciel, il soupira et il lui dit, Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. Jésus regarde donc le ciel pour bien signifier à cet homme d'où va venir la guérison. C'est la puissance de Dieu qui va se manifester. Et Jésus soupire, non pas qu'il soit fatigué d'opérer des miracles, mais pour reprendre à son compte le gémissement de l'humanité souffrante. La longue plainte, un soupir, la longue plainte des malades, des handicapés, accomplissant ainsi la prophétie d'Isaïe concernant le serviteur de Dieu, c'était nos maladies qu'il portait. Puis vient la parole. Une seule parole qui accomplit la guérison. Une parole si mystérieuse que Marc, qui rédige son évangile en grec, l'a conservée telle quelle dans l'araméen populaire que parlait Jésus. Ephphatha, ouvre-toi. C'est un ordre. C'est aussi un programme de vie. Un ordre, un programme de vie. Car cette unique parole de Jésus agit à un double niveau. D'abord, cette parole guérit le corps en ouvrant les oreilles, en déliant la langue. Mais surtout, elle interpelle l'homme. Car c'est à l'homme sourd. C'est l'homme qui doit lire donc sur les lèvres de Jésus. Parole qui l'interpelle, mais qui doit le mettre lui-même en attention, déjà en ouverture. Il peut ne pas vouloir lire sur les lèvres de Jésus. Il peut ne pas pouvoir lire sur ses lèvres. C'est lui qui doit lire sur les lèvres de Jésus cette consigne qui va bouleverser sa vie. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Comment nous l'accueillons nous-mêmes, cette parole? Ouvre-toi. Toi qui t'enfermes dans ta solitude et qui portes ta souffrance comme une rancœur. Ouvre-toi, toi qui es clos sur ton histoire, sur ton passé. Ouvre-toi à la nouveauté que Jésus te propose. Ouvre-toi à la parole de ton Dieu qui vient te donner la force et la liberté et qui agrandit chaque jour, si tu le veux, l'espace de ton espérance. J'achève donc, alors, de ces deux récits, et je dirais des récits de guérison en général, nous pouvons retenir quelques points essentiels. Premier enseignement des miracles de guérison de Jésus, c'est que l'existence humaine est corporelle. Et Jésus vient au secours des corps souffrants. C'est le Fils de Dieu, mais il estime qu'il y a là une occupation digne de lui, venir au secours des corps souffrants. Une occupation digne du Fils de Dieu. Pour autant, on le voit bien au fil des récits évangéliques, il ne s'arrête pas qu'au corps souffrant. Il va aussi vers les misères morales, des déficits spirituels qui résultent très souvent des épreuves physiques. Et enfin, la place faite au miracle de guérison dans la narration évangélique manifeste à elle seule l'importance essentielle que la foi chrétienne invite à accorder à la corporalité humaine et à tout ce qui l'affecte. L'importance essentielle pour notre foi chrétienne, la corporalité humaine et tout ce qui l'affecte. Celui que nous confessons comme le Verbe de Dieu s'est occupé des malades et des misères des hommes. C'est donc quand son Fils, le Christ, en son Fils, Dieu attache un prix à la dimension corporelle de nos vies, qu'il a d'ailleurs partagé et assumé, ou ce que nous appelons précisément son incarnation.